Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimons, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Je crois que le plus grand combat spirituel se passe entre nos deux oreilles. Il se passe là, à l'intérieur de notre cervelle, à l'intérieur de notre pensée, la manière dont on pense. Et si l'ennemi arrive à mettre à l'intérieur de nous-mêmes des choses qui sont des mensonges, il a tout gagné. Parce qu'une pensée va produire un comportement. Une pensée va produire un acte. Et s'il arrive à vous faire penser quelque chose qui est un mensonge, même si la Bible dit l'inverse, et on va voir quelques exemples où beaucoup de gens pensent des mensonges, même si c'est écrit dans la Bible l'inverse, pourquoi est-ce qu'on continue à penser ces mensonges, des choses qui ne sont pas bibliques? Ben parce qu'il y a un combat spirituel, il y a un combat au niveau des pensées, et non seulement au niveau de l'individu, mais au niveau des nations entières. Et personnellement, je pense que Satan a une stratégie pour chaque nation, pour faire penser une nation d'une certaine manière, avec un but bien précis. Et on va voir un verset biblique pour ça. Donc on parle de forteresse spirituelle. Et si vous regardez dans, je vais vous le lire, hein, ça ira plus vite, dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, il est dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Donc là, il est associé forteresse égale raisonnement, égale ce que je pense. Et comme je viens de dire, ce que je pense va déterminer un acte. Mon style de vie va refléter ce que je pense. C'est pourquoi c'est important de savoir ce qu'on pense. Et de vérifier si ce que l'on pense est en accord avec l'Écriture. Nous combattons pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alors ces forteresses, c'est quoi? On a vu que c'est des raisonnements. Une forteresse n'est pas un démon en lui-même. Une forteresse, c'est un système de pensée qui permet à un démon de nous influencer. C'est un système de pensée. Et quand on détruit la forteresse, le démon n'est plus là. Parce qu'il ne peut plus nous influencer, il ne peut plus être là. C'est sa maison. Donc il faut casser la maison. Et comment on fait ça? On doit être renouvelé dans notre intelligence. Romains 12, 1, 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous n'êtes pas renouvelé dans votre intelligence, vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu. La cause à effet est écrite là. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Et selon ce que l'on a vécu dans notre vie, selon notre arrière-plan, selon notre éducation, eh bien on a plus ou moins un système de pensée qui doit changer. Et je crois que plus tôt on a été éduqué dans la foi, c'est pourquoi dans les proverbes et dans les, il est dit « éduque le jeune, instruis-le, c'est une bonne chose, patati patata ». On parle dès l'enfance de dire « instruis le jeune homme dans sa jeunesse ». Pourquoi? Parce que ça va former un système de pensée qui sera biblique. Et on pourrait faire cette image, c'est comme si on a des choses devant les yeux qui nous empêchent de voir comme Dieu voit, qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. La réalité, elle est déformée pour nous. Et selon notre manière de penser, ça va se refléter. C'est comme si on avait des lunettes. Alors, il y en a qui ont des lunettes bleues, d'autres mauves, d'autres noires, ils ne voient rien du tout, d'autres un peu jaunes. Si on regarde le mur qui est jaune, si j'ai une paire de lunettes rouges et que je demande, s'il y a deux personnes, il y en a une qui a une paire de lunettes rouges, l'autre bleue, je dis quelle est la couleur du mur, tous les deux vont être convaincus. Oui, il est rouge ou il est bleu, qui a raison? Ni l'un ni l'autre, parce que le mur il est jaune. Seulement, ils ont une paire de lunettes. Et on porte tous une paire de lunettes. Plus ou moins épaisse. Il y en a, c'est des masques, hein. C'est plus des lunettes. On pourrait donner cette image aussi comme des oignons. On a des gros oignons devant les yeux, et le Seigneur, il doit enlever des pelures d'oignons au fur et à mesure, pour voir, pour commencer à voir comme lui y voit. pour être en accord avec sa pensée. Hmm? Ésaïe 55 nous dit que notre pensée est bien loin de la sienne. Mais alors, vraiment loin. On a bien des choses à comprendre. Donc c'est important de comprendre que notre système de pensée peut avoir des forteresses, et c'est des mauvaises pensées. Et quand il y a ce système de forteresse, c'est à ce moment-là que l'ennemi peut insuffler des pensées. Et quand elles restent à l'intérieur de nous-mêmes, c'est des mensonges et on les croit dur comme fer. On va les défendre même. Un exemple sur ça, une forteresse qui est très courante dans le peuple de Dieu, on a beau en parler en long et en large et en travers, on le retrouve tout le temps, c'est le rejet. Beaucoup de gens se sentent rejetés. Beaucoup de gens au plus profond d'eux-mêmes se disent, ne savent pas vraiment s'ils sont aimés de Dieu. Pourtant la Bible le dit en long, en large et en travers que Dieu nous aime. Il ne nous rejette pas. Alors pourquoi est-ce qu'on vit ce rejet? Parce qu'il y a une forteresse. Un système de pensée qui est là, qui nous fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et les forteresses, il y en a tout un paquet. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, on va s'occuper d'une forteresse. De ce qui me semble être une forteresse, c'est le rationalisme. Et c'en est une bonne, ça, bien solide, bien costaud, elle est là, depuis 208 ans, et elle agit sur notre vie, même en tant que chrétien, qu'on le veuille ou non. Un autre passage que j'aimerais vous lire, c'est dans 2 Corinthiens, encore, 2 Corinthiens 4, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Quand je vous ai dit que je crois que Satan a une stratégie pour chaque pays, pour pouvoir enfermer le pays dans un système de pensée avec un but bien précis. Et ce but précis, c'est que les gens qui vivent dans ce pays ne comprennent pas l'Évangile. J'ai bien dit ne comprennent pas l'Évangile. Je n'ai pas dit qu'ils ne l'entendent pas. Ne comprennent pas, ce qui est différent. Paul dit ceci, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé leurs pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. » Vous voyez cette stratégie qui est là? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées. Il a aveuglé, il a mis un système de pensée, il a mis des forteresses à l'intérieur. Il y a une puissance spirituelle qui aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas et qu'ils ne comprennent pas l'Évangile. Et en France, je pense que une de ces stratégies, peut-être la plus importante, c'est le rationalisme. Et quand vous prêchez l'Évangile à un Français, c'est comme une balle de ping-pong qui rebondit sur un mur. Toum, toum. Et tout ce qu'on a beau dire, il résonne tout. Il y a la machine qui se met en route. Heureusement, il y en a qui se convertissent, c'est pas ce que je veux dire, sinon vous ne serez pas là et moi non plus. Mais si vous prêchez l'Évangile dans d'autres nations, et je l'ai fait, il y a des endroits, ça rentre direct dans le cœur. Vous dites des paroles toutes simples, pouf, ça rentre, les gens pleurent, ils se convertissent. Un Français, c'est dur, hein. C'est difficile. Tout ce qu'on va lui dire, il va le douter, il va le mettre en doute, il va raisonner, il va réfléchir, oui mais, il va essayer de trouver une solution, oui mais à côté il y a quand même ceci, oui patati patata, la philosophie qui se met en branle. Forteresse. Et on va essayer de voir comment ça nous affecte nous. En tant que chrétien. Il y a un livre qui a été écrit dans les Cévennes par la sœur d'un ami. C'est un petit livre jaune. Je crois que ça s'appelle « Le prophétisme dans les Cévennes », si ça vous intéresse. Donc ça, c'est le résumé de ce livre. En gros, hein, j'ai ressorti. C'est un petit fascicule qui est très bien fait, qui est très intéressant sur ce qui s'est passé au temps des Huguenots, quand il y a eu la guerre entre protestants et catholiques, et où il y a eu un mouvement de prophétisme très fort et qui a été éteint. Donc elle a fait comme une étude, et on va voir des choses qui sont importantes ici, qui sont liées au raisonnement. Donc je répète, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne suis pas anti-catholique, je regarde l'histoire, je regarde des faits, et si c'est des catholiques qui ont fait des choses, je le dis, si c'est des protestants, je le dis aussi. Donc personnellement, je ne suis pas anti-catholique, hein. Ne méprenez pas ce que je veux dire. Alors, on va commencer avec la révocation de l'édit de Nantes, qui est quand même un fait important. 1685, la conséquence de la révocation de l'édit de Nantes, donc ça a été fait par Louis XIV, qui lui pratiquait de l'occultisme. Est-ce que vous saviez que Louis XIV, au château de Versailles, j'ai retrouvé un plan qui parle de cela, il s'est construit une chambre spéciale, et sa chambre, la chambre du roi, était construite comme dans le temple des Juifs, et ça s'appelait le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'il fallait passer 3 pièces, donc la cour, l'intérieur du temple, et le Saint des Saints, et lui dormait dans le Saint des Saints. Il s'est fait construire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il réfléchissait à des choses. Donc lui, il a envoyé, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes qui a amené la persécution sur les Huguenots. Là-dessus, donc il y a des protestants qui sont partis en Angleterre, en Suisse et en Hollande, et dans d'autres pays, hein, en Afrique du Sud et je sais pas où. Et on a vu ça hier, que c'est au travers de cette fuite, enfin, que le fils d'un des Huguenots, c'est lui qui a démarré la franc-maçonnerie en Angleterre. En 1686, donc une année plus tard, il y a ce mouvement du Saint-Esprit, du prophétisme dans les Cévennes. Important, très important. Il y a eu des débordements, mais il y avait des choses extraordinaires qui se sont passées. À tel point que j'ai entendu j'ai lu des écrits où il y avait des enfants qui ne parlaient pas, hein, de 2 mois, 6 mois, ou j'en sais rien, qui étaient dans le berceau, et qui prophétisaient dans un français pur, prof. Et ils annonçaient des prophéties de la part de l'Éternel pour le peuple qui était là, où il leur disait, faites attention, allez vous cacher, je sais plus quoi. Enfin, ils les avertissaient. Et Dieu parlait au travers des nourrissons. Donc il y a eu un mouvement important. Ça a amené à des excès, et il n'y avait plus de contrôle. C'est-à-dire que beaucoup de révélations ou des choses qui ont été amenées n'étaient pas contrôlées avec l'écriture. Il y a eu des débordements. Il y a eu de la rébellion et des meurtres, ainsi que la guerre des camisards. Donc les gens sont cachés, ils sont cachés dans des grottes, etc. Enfin, toute une histoire. Ceci a amené à la destruction des prédicants, c'est-à-dire ceux qui prêchaient l'évangile. Parce qu'il y avait des gens qui se levaient dans les montagnes et pof, ils prêchaient l'évangile. Et il y avait une persécution qui est venue sur ces gens-là pour les arrêter. Ce qui a été remplacé par les inspirés. Et je crois que les inspirés, c'était ceux qui se faisaient partie de ce mouvement prophétique et qui se nommaient inspirés parce qu'ils recevaient une révélation de Dieu, mais qui parfois débordaient. Et là vient un personnage qui est important, c'est Antoine Court, en 1715. Qui lui a voulu mettre de l'ordre dans tout ça. Et il a freiné le mouvement du prophétisme. Il l'a stoppé par son intervention. Donc en voulant contrôler, ce qui est une bonne chose, les débordements, mais il y a eu vraiment un arrêt assez brutal. Donc son désir, c'était de restaurer l'Église. Il va amener une réforme. Il interdit aux femmes de prêcher et de prophétiser. Et là, il y a un mot qui est faux, c'est qu'il va réfuter les révélations reçues prophétiquement avec la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un emmenait une prophétie, il voulait la démonter avec la parole. Et donc il s'est opposé à ça, ce qui a amené un blocage du Saint-Esprit dans l'Église. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas vérifier les prophéties avec la parole, ce n'est pas du tout ça. Je parle du fruit de ce qui s'est passé.
Okay.
Et là, une chose importante est arrivée, c'est que l'Église s'est ouverte à l'esprit humaniste et à la franc-maçonnerie, en 1742. Et son fils, à lui, parce qu'il se passait une chose, c'est que en France, à cause de ces persécutions, il n'y avait plus de formation biblique, donc il y a un institut qui était à Lausanne, qui se chargeait de former les pasteurs et de former les gens qui allaient prêcher en France. Donc il est formé à Lausanne, et il est renvoyé après en France pour être les pasteurs, les bergers, de tous ceux qui étaient dans les montagnes et tout ça. Et le fils d'Antoine Court, à Lausanne, a démarré une loge franc-maçonnique, qui était la loge Étoile. Et la conséquence de cela, c'est que la raison, c'est-à-dire le raisonnement, va prendre le contrôle de l'Église réformée, et un missionnaire, en 1760, a décrit les ministres au sud de la Loire comme ceci: plus raisonneurs et philosophes que chrétiens, ils ne croient que ce qu'ils comprennent. Tout ceci pour vous montrer quoi? Qu'il y a eu une évolution, il y a eu quelque chose qui est venu dans le peuple de Dieu, au niveau de la raison, au niveau du raisonnement. Et plus tard, donc là, ça c'est en 1760, ce qui va se passer au niveau de la fête de la raison, ce qu'on va voir en détail, ça se passe plus tard, en 1793, pendant la Révolution française. Donc il y a eu un travail qui s'est fait, il y a eu des choses qui sont arrivées, et il y a quelque chose qui s'est installé, à mon sens. J'aimerais vous montrer rapidement un transparent aussi d'un homme que je respecte énormément, qui s'appelle Tom Bloomer, qui est un enseignant magnifique, et qui a fait un travail depuis 1777. Alors je pourrais pas tout expliquer parce que c'est un peu compliqué, mais il parle beaucoup de tout ce domaine de la raison. Et il parle justement de la pensée hébraïque et de la pensée grecque. Et il explique comment on est, nous, en tant que Français et dans la France, et dans l'Église, influencés par la pensée grecque plutôt que hébraïque. Et la pensée hébraïque, c'est quoi? Donc on voit ça entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. C'est la révélation qui vient de Dieu qui est donnée. Et une révélation qui est là. Transcendance. Et ils obéissaient sur cette révélation. Dieu parlait, pouf, De temps en temps, ils obéissaient, mais ils obéissaient quand même. Quand les Grecs sont venus, il y a le domaine de la raison qui est venu. La révélation était là, mais la raison vient et elles sont séparées. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le domaine de la révélation et le domaine de la raison. Et c'est là où on va retrouver aussi cette séparation qu'on retrouve encore dans le milieu chrétien, dans ce qu'on appelle séculier et sacré. Il y a des choses qui sont sacrées, qui sont saintes, et il y a des choses séculières. Hein? C'est pour ça qu'on dit parfois, ah oui, c'est quelqu'un qui est à plein temps, il a plein temps pour le Seigneur. Et les autres, ils sont quoi? Ils sont à quart temps, à mi-temps? Qu'on soit pasteur, missionnaire, évangéliste, que vous voulez, ou caissière, plombier, ou... On travaille tous pour le Seigneur. Mais on a cette... Ah, lui, il est à plein temps, lui. Lui, il est à plein temps pour le Seigneur. Les autres, ils travaillent. C'est un travail dans le monde séculier. Il y a une séparation qui est là, dans notre pensée. Alors que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de séparation. Le monde, il est là, on est dedans. Et on doit influencer ce monde. On doit être sel partout où on doit être. Là où Dieu nous place, on doit être sel. Il n'y a pas de chose plus importante qu'on soit pasteur, missionnaire, évangéliste, n'importe quel ministère ou n'importe quel métier que Dieu va nous donner en nous disant « Je veux que tu sois là » et qu'en tant que fils et fille de Dieu, tu sois sel là où tu es. Mais la pensée grecque fait une division, séculier, sacré. Je vous montrerai un autre transparent qui montre ça encore plus brillamment. Donc entre le 4e et le 11e siècle, la révélation va être au-dessus de la raison, ce qui est une bonne chose, c'est recentré. C'est-à-dire que la raison n'est pas éjectée, mais elle a sa place. C'est-à-dire que ce qui est transcendant, la révélation qui vient de Dieu, domine. Okay? Ensuite, il y a un homme au XIIe siècle, Abélard, où c'est inversé. C'est-à-dire que la raison précède la révélation. Et Thomas d'Aquin, lui, va faire le divorce entre les deux. C'est que la révélation est divorcée de la raison. C'est deux choses séparées. Je n'ai pas fait d'études sur ça. Il faudrait écouter Tom Blumer pour donner plus de détails. Mais c'est intéressant de voir sur... Tant de siècles, ce travail. Ensuite, on a Descartes, qui vient au XVIIe siècle, et où la raison est élevée au-dessus de la révélation. C'est elle qui prend le dessus. Je pense, donc, je suis. Et pendant le siècle des Lumières, la révélation est exclue, et c'est la raison qui reste. C'est le déisme, ce dont je vous ai parlé au travers de la franc-maçonnerie. Ce qui existe là-haut, peut-être, mais on le balance, ça ne nous concerne plus, et maintenant, on va raisonner, on va faire nos propres lois, on va créer notre monde, humanisme, libéralisme, etc. Donc la révélation, ce qui vient de Dieu, exclut. On arrive à la Révolution française où la raison est adorée et on va passer plus de temps là-dessus. Ensuite, au 19e, la raison est relativisée avec Hegel et Marx, et ça je ne pourrais pas l'expliquer. Après, on a l'existentialisme où la raison devient personnalisée. Et maintenant, nous sommes dans le postmodernisme où la raison est atomisée. Et je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Mais bon, c'est atomisé. Le point que je veux faire là-dessus, qui est le plus important, c'est que la pensée originelle hébraïque, quand je dis la pensée hébraïque, c'est le mode de fonctionnement que Dieu a donné au peuple juif, la façon dont il fonctionnait, qui est biblique, a bien changé pour nous. Et eux, leur manière de fonctionner, c'était quoi? Je reçois une révélation de Dieu, j'obéis. Nous faisons, je reçois une révélation de Dieu, je cherche à comprendre, et si je comprends, j'obéis. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'obéissance, parce que tant qu'on n'arrive pas à comprendre la révélation, eh bien on n'obéit pas. Et le Seigneur veut nous ramener à la pensée hébraïque. Si vous voulez chercher à tout comprendre avant d'obéir, vous n'allez pas obéir souvent, mes amis. Parce que Dieu fonctionne de l'autre côté, à mon sens. Bien souvent, il nous demande quelque chose, on ne comprend rien, c'est complètement irrationnel, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais si on a cette conviction qu'il nous demande de faire quelque chose, quel qu'il soit, et qu'on obéit, Dieu va bénir. Ça a été, moi, pour ma vie, en tous les cas, chaque fois que je l'ai fait, je n'ai jamais regretté. C'est des pas de foi, ça nous coûte, ça fait peur, mais c'est là où on met le pied dans la foi et on saute, on se dit « Ok, j'obéis ». Et bien souvent, on rate soit la volonté de Dieu, soit on rate ce que Dieu veut faire parce qu'on veut comprendre. Et qu'on va dire, non, je dois d'abord comprendre, je dois raisonner, je dois tout disséquer. S'il y a le moindre truc qui est de travers, clonc, j'élimine tout. Et le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Donc en tant qu'Église, on doit revenir à la pensée hébraïque. C'est tout le travail, il semble en tous les cas, que Dieu met l'emphase sur cela. J'aimerais vous montrer juste un transparent qui est en anglais. Donc ça va faire plaisir à Clive et à John. Ils vont comprendre cette fois. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Discipling Nations, Faire des nations des disciples. C'est un remarquable livre. Et il explique tous les modes de fonctionnement sur la planète, hein, les différents courants philosophiques et religieux, et la manière dont les gens pensent, et le résultat et les conséquences qu'il y a sur leur nation. Parce que là, il y a un combat spirituel énorme. Prêcher l'évangile doit transformer notre manière de voir et notre manière de réfléchir et de fonctionner. Okay? Quand vous allez dans une civilisation où la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de manger votre meilleur ami en tant que cannibale, il y a un léger problème. Et lorsque vous prêchez l'évangile sur ça, eh ben, il doit y avoir un petit renouvellement de l'intelligence là. Vous voyez? Donc c'est vraiment intéressant ce livre où il explique toutes les manières de fonctionner et il dit ceci, enfin c'est lui qui fait cette citation, que beaucoup d'églises dans le monde entier évangélique, on se retrouve dans cette gnose évangélique, ce qu'il appelle le gnosticisme évangélique. La gnose, c'est venu au deuxième siècle et ça a combattu l'évangile justement. Hein. C'est un mysticisme qu'on retrouve déjà dès le deuxième siècle. Et il dit que nous faisons, en tant que chrétiens, cette séparation. Donc il y a, ce que je vous ai dit, donc ça va être le monde sacré, on va dire, et ça le monde séculier. Donc il y a Dieu qui se trouve là, et toutes les choses qui sont rattachées à Dieu, qu'on estime, qui sont sacrées, c'est-à-dire qui sont bonnes. C'est louable, ça a de l'importance. Et ces choses-là, donc, c'est tout ce qui est spirituel, ce qui est moral et sacré, donc il y a la grâce, la foi, l'éthique, la mission, la théologie, l'évangélisation, le fait de se discipliner, la dévotion, la discipline spirituelle, le combat spirituel et les dimanches, jours sacrés. Et ce qui est naturel, on va parler du monde physique, donc séculier, séparé de Dieu, c'est le travail, le domaine de la raison, le domaine du business, des affaires, la politique, la science, l'économie, les médias, les arts, les ministères physiques, la justice sociale et le reste des jours de la semaine. Et c'est vraiment intéressant ça. Et réfléchissez à ça, comment est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous pensez que Dieu est avec vous dans votre travail ou il est seulement lorsque vous venez à l'église? Une des conséquences de la pensée cartésienne en France, hein, donc de Descartes, je vais vous donner quelques exemples, ça vient encore du travail de Tom Bloomer qui est très intéressant, qui nous montre comment, même en tant que chrétien, ben, ça façonne notre manière de penser. A contrario, donc, de la pensée hébraïque. Hein, faut le mettre en opposition avec ça. Toute connaissance peut être obtenue à travers la raison humaine seule. Ça, c'est une déclaration, c'est une bombe atomique. Pourquoi? Parce qu'à travers la pensée grecque, il est pensé ceci, que tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, s'il y a révélation qui doit venir, c'est à travers la raison. C'est complètement faux. Révélation, ça vient de Dieu. Et on verra après qu'elle ne vient pas au travers de notre raison en premier. Alors que là, la pensée cartésienne nous dit « Toute connaissance peut être obtenue à travers la raison humaine seule. L'existence est définie en termes de la pensée. La confiance n'est plus en Dieu, mais en l'être humain. L'accent n'est plus sur l'ensemble, mais sur les parties. Une conséquence de cela, c'est que l'être humain devient autonome. Le surnaturel n'existe plus et l'intervention divine non plus. Il y a le progrès et l'évolution philosophique. La connaissance devient neutre et libre de valeur. L'être humain peut et doit découvrir la vérité sans Dieu. La philosophie est redéfinie en étant la recherche de la vérité sans recours à la révélation divine. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour avoir une révélation sur la vérité. Or, on sait que la vérité, c'est quoi? C'est une personne. C'est Jésus. Hein, un peu dur hein, d'avoir la vérité sans Dieu, en tant que chrétien. L'université est redéfinie comme étant la place où la vérité est découverte sans Dieu. La vie privée est séparée de la vie publique et la religion est exclue du débat national. Ça, c'est les conséquences dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et il y a une déclaration qui est faite par un homme, Michel Polanyi, je ne sais pas qui c'est, qui dit ceci, « Les trois derniers siècles ont été les plus brillants de l'histoire humaine, mais cette lumière a été créée en brûlant le capital de 1000 ans de la tradition chrétienne dans l'oxygène du rationalisme grec. Nous n'aurons point de nouvelles lumières en ajoutant davantage d'oxygène. » n'est pas en continuant avec ce rationalisme qu'on va avoir plus de révélations. Bien au contraire. Pourquoi ? Parce que la pensée grecque nous dit que tout part à partir de là, de notre raison. Alors que la Bible nous dit que tout part d'en haut, de lui, et qu'il nous donne une révélation. Et on va voir comment ça nous affecte et comment ça nous empêche de recevoir des révélations, justement, quand on est dans ce domaine. Alors, le culte de la raison, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas arrivé non plus par hasard, comme ça. Je crois qu'il y a tout un contexte. On a vu un peu l'histoire au niveau historique de la raison. Il y a les philosophes Voltaire et Rousseau qui ont beaucoup écrit, qui ont façonné la pensée. Et c'est comme le clou. Il y a quelque chose qui a été mis là, qui a été décidé. C'est une longue préparation. Et puis là, il y a une cérémonie importante qui n'a pas été faite par n'importe qui. C'était pas les petits gens de la rue qui ont fait ça. C'était les gens qui quelque part, avaient le gouvernement en place. Enfin, qui était le gouvernement. C'était la révolution, il y avait tout un bazar là, mais c'était pas n'importe qui ont fait cette cérémonie. Et leur désir, c'était de changer le culte catholique, dans un sens, ou le culte chrétien, on va dire, l'église, on va mettre le nom de l'église derrière, et ils voulaient changer ça, révolutionner les choses. Hein, c'est là où je vous ai dit, dans le même sens, il y a eu le calendrier républicain, ils ont voulu stopper les cultes, ils ont interdit les cultes, ils ont massacré des prêtres, ils ont forcé les prêtres à se marier, ceux qui ne voulaient pas, ils les tuaient, ils ont fondu les églises, ils ont cassé les statues, je veux dire, il y a eu un vent de destruction massif contre l'église, contre le clergé qui s'est fait. Et les reproches qui étaient faits à cette époque à l'église sont ceux-ci, l'église amène des dogmes qui enlèvent la liberté. Ils ont le contrôle de l'État par la religion et ils s'enferment dans des systèmes pour ne pas reconnaître leurs erreurs. À cause de ça, ils ont dit, on élimine l'Église et on va faire un nouveau culte, ce qu'on appelle le culte de la raison. Donc ça n'a pas duré très longtemps, mais à mon sens, il y a une alliance spirituelle qui s'est faite là, où on est toujours sous cette influence. Et cette chose, qu'on le veuille ou pas, on est dessous parce que c'est ce qui domine sur la France, ça influence notre manière de penser. Et il faut apprendre à en sortir. Ça, c'est le combat qu'on doit mener. C'est pas de la faire tomber. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Enfin, je pense. Donc, ma prière n'est pas de dire, vas-y, je vais lier la déesse de la raison. Mais plutôt d'enseigner les gens à sortir de son influence. À casser la forteresse qui est sur notre vie. Et de discerner, de voir comment est-ce qu'elle nous influence. Parce que c'est subtil, on s'en rend pas compte. On a grandi comme ça. On a vécu toujours comme ça. Et on s'en rend pas compte. Donc il y a un vent de déchristianisation qui a augmenté, qui est venu, et il y a des citations comme celle-ci qui disent, si le culte, donc le culte catholique ou chrétien, je vous rappelle que derrière ça on retrouve des francs-maçons, hein. Beaucoup de gens comme Danton, Condorcet et plein d'autres gens importants de la révolution, c'était des francs-maçons. Ils ont été victimes eux-mêmes de toutes leurs croyances, ils ont été décapités pour la plupart. Mais eux ont vraiment insufflé des choses et des pensées démoniaques qui ont amené des choses. Okay. Donc il y a une cérémonie très importante qui s'est passée. Et là, il y a le peuple qui marchait dans les rues. Ils sont venus à Notre-Dame de Paris, qui n'est pas un lieu neutre. On a vu pourquoi. Hein. C'était le temple, l'ancien temple d'Isis. Et ils ont consacré une femme. Ils ont fait une cérémonie en disant que cette femme... Ils ont pris une actrice, c'était la première, normalement une chanteuse d'opéra. Il y a eu plein de cérémonies, alors il y a eu différentes actrices et différentes choses. Mais ils ont élevé une femme avec tout un truc, et ils l'ont déclarée comme déesse de la raison. Et ils ont déclaré cela en disant que c'était le nouveau dieu des Français. Et je vais vous lire la déclaration qui a été faite, parce que c'est lors de cette déclaration, par les gens qui avaient le pouvoir en place, qui, à mon sens, amènent une alliance mauvaise, une malédiction sous laquelle on est toujours. Je vais vous montrer un dessin de cette cérémonie. Donc ils sont allés à l'intérieur de Notre-Dame, ils ont construit à l'intérieur un temple grec qu'on voit là-haut où c'est marqué « à la philosophie ». Vous voyez l'espèce de petit temple, hein. Ça se trouve à l'intérieur de l'église de Notre-Dame. Ils ont mis 4 bustes, c'était je crois Diderot, Voltaire, Rousseau et je ne sais plus lequel. Donc les personnes qui ont amené aussi par leurs écrits toute cette manière de penser. Là, ce qu'on retrouve, c'est cette femme. Donc, on retrouvera beaucoup cette image de cette femme qui représente la déesse de la raison, qui sera après le symbole de Marianne, qui l'est toujours, hein. Mais on va retrouver souvent ça avec donc le pic, un bonnet phrygien qui est un symbole de la liberté, Et quand on parle de la liberté, c'est la liberté de l'Église, c'est pas la liberté auquel on peut penser. Hein. Eux, quand ils disent liberté, égalité, fraternité, ils pensent à l'Église, au christianisme. Il faut se libérer, je vous ai dit au début, ce qu'ils reprochaient à l'Église, les dogmes qui sont, ils s'enferment dans des systèmes, ils contrôlent l'État par la religion, etc. Donc il fallait être libéré de cela. Et cette devise, elle est toujours là, hein. Liberté, égalité, fraternité. Donc il y a différents symboles qu'on retrouve. Donc il y avait plein de gens, il y avait des filles d'honneur, etc. Enfin, il y avait tout un flonflon. Ils ont fait leur cérémonie et ils ont dit ceci. Je vais vous décrire ce que j'ai retrouvé. Donc ça, c'est des faits historiques, hein. C'est dans des livres sur l'histoire, des historiens qui disent ceci. « Alors sortit du temple aux yeux du peuple une femme, image fidèle de la beauté. Sa robe est blanche, sur ses épaules flotte un manteau bleu, elle est coiffée d'un bonnet rouge, dans sa main droite elle tient une longue pique. Son attitude imposante et gracieuse commande le respect et l'amour. Elle personnifie la liberté. » Elle vient sur un siège de verdure recevoir l'hommage des républicains qui, en lui tendant les bras, chantent un hymne qui est, à mon sens, une véritable malédiction. Et voici ce chant. « Descends, ô liberté, fille de la nature, le peuple a reconquis son pouvoir immortel sur le pompeux débris de l'antique imposture, c'est-à-dire l'Église. Sur ses mains relève ton autel. Venez, vainqueur des rois, l'Europe vous contemple. Venez sur les faux dieux, étendez vos succès. Toi, sainte liberté, viens habiter ce temple, sois la déesse des Français. » Par cette déclaration, c'est une invitation à une déesse de venir régner sur la France. Et aujourd'hui, elle est là encore, à mon sens. C'est pourquoi nous raisonnons tellement. J'ai pas vu cette cérémonie dans d'autres pays. Hein. J'ai pas trop cherché, mais je connais aucune histoire qui raconte ça. Je connais aucun autre pays qui est comme nous. On raisonne tout. Alors juste une parenthèse sur ça, la raison est un don de Dieu. Il ne faut pas la mettre à la poubelle. Il nous a créé avec une intelligence, avec une raison, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec qui sont bonnes, et on doit la cultiver. Mais elle doit être soumise. On doit l'utiliser proprement, intelligemment. Donc j'ai rien contre, on va pas être des chrétiens idiots à tout mettre par terre, dire ben non on va plus réfléchir et puis on va être que spirituel et on va plus rien raisonner. Non, le Seigneur nous a donné une raison, c'est fait pour quelque chose. C'est ce qui nous différencie des animaux d'ailleurs. Vous avez remarqué que c'est les humains qui gouvernent et pas des animaux, sinon peut-être ça serait eux qui gouvernaient. Mais le Seigneur nous a donné quelque chose de plus. Mmh. Il a donné à l'homme, l'humain, le pouvoir de gouverner sur cette planète, au-dessus de tout le reste. On a perdu des choses, mais il a donné ce mandat. Il l'a pas donné aux animaux. Donc on a une raison, elle est bonne. Je suis pas en train de faire le, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être intelligent pour Dieu. C'est pas du tout ça. Mais il y a un côté pervers, et c'est notre plus grande force en tant que Français, et c'est notre plus grande faiblesse. Parce qu'on est reconnu dans le monde entier pour être un peuple intelligent, dans le sens, il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, les intellectuels, les écrits, etc. Mais en même temps, c'est le revers de la médaille. C'est là-dessus que l'ennemi nous a piégés, c'est une stratégie qu'il a utilisée et il a aveuglé nos pensées. Et ça fait 208 ans que ça dure. Alors cette cérémonie qui s'est passée là, ils ont essayé, je dis bien essayé, je crois que sur la ville de Paris, ils l'ont faite partout, dans toutes les églises, c'est-à-dire qu'ils ont fait cette cérémonie dans chaque église de Paris et ils ont essayé de le faire dans toute la France. Je ne sais pas s'ils y sont arrivés, mais ils avaient cette volonté de faire cela. Et c'est ce qu'on appelle le culte de la raison. Mais le matin, il s'est passé ceci, mais le soir, j'ai retrouvé dans des écrits qu'ils ont fait la fête. Ils ont refait cette cérémonie un peu différemment. Et le soir, ils ont amené des prostituées, et dans l'église, pour profaner l'église, ils ont fait une orgie sexuelle. Qui me rappelle beaucoup, quoi ? Corinthe et Éphèse, les prostituées sacrées. Encore une fois, on passe par une femme pour aller vers le divin, ok ? Parce que je me suis dit, je vois pas le rapport entre la raison et une orgie sexuelle. J'en vois aucun. Mais alors, aucun. Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui revient? Pourquoi est-ce qu'il y a ce fruit qui revient, qui est lié à Notre-Dame de Paris, dans les églises? Enfin, ça a démarré à Notre-Dame. Et ça va au-delà, je crois, de simplement le désir de se dire, bah tiens, on va profaner l'église, on va s'amuser. Il y a quelque chose de spirituel là-dessus. Donc, chaque mois, il y a ce culte de la raison, ce qu'on appelle, qui va être célébré dans l'église. Et on dit que l'église était transformée en temple de la raison, avec une statue de la liberté sur l'autel, et ils ont créé une Marseillaise, une chanson, qui est celle-ci. Français, la raison vous éclaire. Venez l'adorer dans les lieux où, sous le voile du mystère, les prêtres trompaient vos aïeux. Enfin, l'infaillible nature, conduite par la liberté, fait du temple de l'imposture la maison de la vérité. Alors on peut dire, oui, c'était il y a 208 ans, ça a duré quelques mois. Je suis allé à Notre-Dame de Paris pour discuter avec un prêtre là-bas, parce que je me suis posé la question si suite à ça, c'est Napoléon qui a réinstauré le culte chrétien en France, hein, autant protestant que catholique. Donc je ne sais pas exactement quand, 1803 ou 4, quelque chose comme ça. On dit qu'il a fait un concordat avec un pape, donc il a réinstauré ça, la liberté du culte. Donc ça n'a pas duré trop longtemps. Donc je suis allé voir après un prêtre catholique là-bas pour lui demander, mais peut-être que l'Église, en prenant conscience de ce qui se passait là, quand même, il y a des déclarations sévères, hein, c'est pas des petites choses. Est-ce que les chrétiens ont fait quelque chose? Je sais pas, ils auraient pu briser ces alliances ou parce que j'ai rien retrouvé qui dit ceci. Et je me suis interrogé sur ça. Et puis quand j'ai vu l'étonnement du prêtre qui me regardait avec des yeux comme si je lui parlais de je sais pas quoi, j'ai laissé tomber. Je me suis dit bon, mais il comprend absolument pas de quoi je lui parlais. Et quand je lui parlais de la fête de la raison, il ne savait pas du tout. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que les catholiques, les chrétiens, quand ils sont revenus, quand ils ont repris leur paroisse, ont fait quelque chose. Ça, j'en sais rien. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une principauté spirituelle qui est là, qui est cette déesse de la raison et qui nous influence. Et on va venir sur le terrain du pourquoi l'ennemi a choisi la France pour faire ça. Parce qu'il y a une raison. Vous voyez en bas, ça je trouve ça intéressant, c'est une procession de la déesse de la raison. Qu'est-ce qu'on trouve là? Une pyramide. Et là, il y a une statue. Alors, je sais pas ce que c'était, puis c'est une procession. On voit là les pics avec les bonnets phrygiens. Donc là aussi, je pourrais me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là, le mélange? Voilà un autre dessin qui représente la raison. Donc c'est la femme. Vous voyez l'œil machin là, hein, symbole maçonnique. Ou un serpent qui est là. Et le lion, ça représente le peuple. Donc la raison tient le peuple par ce dessin. Elle domine. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous répondiez automatiquement ce qui vous traverse la tête. Soyez honnête. Où est votre esprit? J'entends pas. Il est dans mon corps, oui, heureusement. Mais où dans mon corps? Où est mon esprit? La Bible parle qu'on est corps, âme, esprit. Il est où? Dans le cerveau. Qui pense que notre esprit est dans le cerveau? Dans le cœur. Ouais. L'esprit et l'âme. L'âme. Ok. Qui pense que notre esprit est là? C'est bien. Hein, vous m'impressionnez là. Vous voyez, parce qu'en tant que Français, ça a été une fois j'ai eu une révélation sur ça, justement, parce que j'entendais un enseignement en anglais, et il y a un anglais qui a dit ceci, « A thought came into my mind », c'est-à-dire une pensée est venue dans ma pensée, dans mon intelligence. Et le traducteur a dit direct, « Une pensée est venue dans mon esprit ». Et si je vous dis ça, votre esprit, évidemment, il n'est pas dans votre cœur, dans votre âme. Hein. Une pensée est venue dans mon esprit, vous pensez bien à votre tête, n'est-ce pas? C'est français, ça. Une pensée mais est venue à l'esprit. Donc pour les Français, l'esprit est là. Seulement, il n'est pas là, l'esprit. Et c'est de là que viennent ces... Enfin, j'ai réfléchi à ça après. Hein, quand on dit, les esprits sont échauffés. Il a perdu l'esprit. Il a perdu la boule. Hein? Il a perdu ses esprits, il a perdu connaissance. Il est tombé dans les pommes. C'est pas vrai ou pas? J'invente tout ça? Non. Alors d'où ça vient ça, que notre esprit, pour nous Français, est là? Je sais pas d'où ça vient, mais il semble qu'il y a tout ce travail du domaine de la raison, de ce qu'on a vu. Je sais qu'il y a une époque, je sais plus quand, mais quand je vois des films, vous savez, les rois avec les bigoudis et tout, là, quand ils se parlent, c'est la plus haute forme d'intelligence, c'est d'arriver à casser l'autre par une prouesse de l'intelligence, ce qu'ils appellent l'esprit. Et quand à cette époque on disait, ah ça c'est quelqu'un qui a de l'esprit, hein? Oh, ça c'est une pointure, une stature. Il a de l'esprit, lui. C'est qu'il est intelligent. Il arrive à te casser en deux et te démolir devant tout le monde. Il dit des choses, il te ridiculise. Et c'était un jeu. C'était comme des joutes. Hein. Ils étaient là à se lancer. Et celui dans les soirées qui arrivait à avoir le dessus, eh ben, c'était celui qui avait le plus grand esprit. Mais la Bible nous dit que l'esprit, il n'est pas là. Et il semble qu'il est là. Par là, en tous les cas. Ou là, je sais pas, mais... Il n'est pas là. Et j'aimerais vous citer un verset. Vous savez que les autres pays n'ont pas ce problème, hein. Je discutais avec Clive ce matin pour lui dire ce qu'on allait faire, et ça, il savait pas du tout ça, hein, que ce problème qu'on a, le fait de mélanger esprit, intelligence, esprit, et quand la Bible parle de l'esprit, on est confus. On mélange tout. Et c'est là où on a besoin d'une séparation. C'est là où la déesse de la raison nous influence. Parce qu'on pense que notre esprit est dans notre raison, et je vous ai dit que la pensée grecque, c'est que la révélation vient à partir de notre raison. Ce qui veut dire que lorsqu'on pense que notre esprit est dans notre raison, tout vient de là. Donc je raisonne tout. Et c'est là la plus grande erreur. Parce qu'il faut commencer à fonctionner à partir de notre esprit. Et lorsqu'une révélation vient dans notre esprit, il vient là. Et ensuite il monte là. 1 Corinthiens 14, 14 dit ceci. Si je prie en langue, mon esprit, voilà, là, mon esprit, est en prière, mais mon intelligence, là, demeure stérile. Ce qui prouve bien que c'est séparé. Et le domaine de l'esprit et de l'intelligence sont séparés. J'aime beaucoup la traduction de la Bible de Jérusalem qui dit « Mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. » Il y a un commentaire. Dans la prière du glossolalie, donc parler en langue, notre intellect ne peut pas comprendre ce qui se passe dans notre esprit quand on parle en langue. Parce que c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de notre esprit qui agit. Et c'est ça toute la différence. Et en tant que chrétien, on doit apprendre à vivre avec notre esprit. Et bien souvent, puisque tout est mélangé dans notre définition et qu'on ne sait plus où on en est, c'est notre intelligence qui gouverne. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous dit quelque chose, je vous ai dit, hein, la différence entre la pensée hébreu et la pensée grecque. La pensée hébraïque, révélation vient, j'obéis. La pensée grecque, la révélation vient, je réfléchis, j'essaye de comprendre, et une fois que j'ai compris, j'obéis. Si c'est rationnel, si c'est intelligent, je vais obéir. Est-ce que le Seigneur vous a déjà demandé de faire quelque chose qui est totalement irrationnel, qui a l'air vraiment stupide, mais il vous demande de le faire? Pourquoi? On n'en sait rien. Ça, c'est, j'en sais rien pourquoi. Mais des fois, il nous demande des trucs complètement barjots. Et en obéissant, il se passe des trucs incroyables. Et un exemple sur ça, j'ai entendu une histoire merveilleuse. Un prophète aux États-Unis, il prêchait, il était là. Et le Seigneur lui montre un homme, comme toi. Et il lui dit, va et mets-lui une gifle, mais alors, d'une force terrible. En plein meeting, comme ça. Et il se dit, non, quand même, Seigneur, je vais pas... Descends et une gifle. C'était pas une petite tapette, hein. C'était une belle claque. Et il luttait avec ça, mais le Seigneur lui disait, je veux que tu ailles frapper cet homme sur la joue, et fort. Il s'est arrêté, il est descendu, paf, il lui a mis une gifle devant tout le monde. Et l'homme s'est levé, comment est-ce que vous avez su? Il a dit, su quoi? Il a dit, lorsque je suis rentré dans cette église, j'ai dit à Dieu que s'il voulait me guérir, parce que j'ai un cancer sur la joue, qu'on me frappe sur ma joue. Et l'homme a été guéri. Alors, pensée hébraïque ou pensée grecque? Vous voyez où je veux en venir dans notre vie chrétienne? Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose qui est complètement irrationnel, qui a l'air débile, stupide, on ne comprend pas, mais il nous le demande de le faire, on rate des occasions que Dieu se glorifie, on rate des occasions que Dieu agisse, on rate des occasions de vivre des choses avec le Seigneur parce que notre raisonnement se met en branle et casse tout. J'ai entendu un témoignage aussi une fois, j'ai entendu parler d'un jeune frère africain. Il venait de se convertir et il lit la parole et il voit dans la parole que Jésus ressuscite les morts. Il dit, oh, Jésus ressuscite les morts, moi j'ai Jésus en moi, moi aussi je ressuscite les morts. Et il a commencé à aller chercher les morts pour voir si ça marchait. Et il a remonté la rue de son village et il frappait chez les gens. Vous n'avez pas un mort chez vous? Ah ben ce jour-là, il en a ressuscité 13 des morts. Jeune converti. Il a prié à la lettre ce qui est marqué dans la parole. Là, c'est pas sa raison qui s'est mis en branle, là. C'est sa foi et son esprit. Vous voyez jusqu'à quel point on peut être influencé par ce domaine de la raison? Et notre problème en tant que chrétien français, c'est justement que c'est notre intellect qui va diriger notre vie. On va tout disséquer.
Et on va estimer si c'est sage, pas sage. Et il faut inverser les rôles. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à soumettre notre intelligence à Christ. Qu'est-ce que je vous ai lu tout à l'heure ? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, il faut le faire. Et commencer à apprendre à vivre avec notre esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui domine dans notre vie et pas notre intellect. Encore une fois, on n'est pas des animaux, on n'est pas des imbéciles. Vous saisissez bien la différence, hein ? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être idiot. Mais il y a des domaines où quand on est convaincu, on sait que Dieu nous a parlé, on sait qu'il nous a demandé de faire quelque chose. C'est en agissant dans la foi que les choses vont se faire, dans l'obéissance. Et pour moi, le domaine de la raison, de ce qui se passe là, ce mauvais côté de la raison, parce qu'il y a un bon côté de la raison, mais le mauvais côté de la raison, où le rationalisme va tuer la foi. Et c'est l'arme pour la France, que l'ennemi a mis sur la France avec notre aide. Ça ne s'est pas fait tout seul, mais c'est ce qui est là et qui empêche les gens de voir l'évangile. À mon sens, une des choses. Et je crois, je me demande si c'est pas une des choses les plus fortes. Liée à l'occultisme, ça c'est deux choses, deux forces qui lient les gens pour voir et comprendre l'évangile. Alors c'est pas impossible, hein, la preuve. Vous êtes bien chrétien, vous. Et moi aussi. Ce matin, John parlait de la vie et de la mort, là. Et c'était intéressant, parce que je voulais venir sur ça, il en a un petit peu parlé. Selon ma compréhension, quand Adam a péché, et qu'on a dit, il est mort, la première mort, c'est son esprit qui est mort. Parce que c'est notre esprit qui est en contact avec Dieu. La séparation qui s'est faite, l'esprit est mort. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui reprend vie. Et c'est là que ça se passe, le contact avec le Père, avec Dieu. Et je crois qu'une révélation, c'est pour ça que souvent vous entendez, je ressens dans mon esprit. Vous avez déjà entendu ça ? Oui, je ressens dans mon esprit ceci, cela, etc. L'intuition, c'est pas que l'intuition féminine, hein. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu dans notre esprit qui parle, qui dit quelque chose. On n'arrive pas à mettre les mots dessus, il y a une gêne, il y a quelque chose, on sent qu'il y a là quelque chose. Et ensuite, ça monte dans notre cerveau. Et d'un coup on comprend, ah c'est ça. Mais c'est pas venu à partir de là. C'est venu à partir de là. Et c'est ça qu'il faut développer. Et de laisser le champ libre au Seigneur, de parler dans notre esprit aussi fort qu'il le désire. Et je crois que ça se cultive, d'être en contact direct avec lui, dans notre esprit, et de le laisser agir, et de commencer à dépoussiérer toutes les forteresses et les faux raisonnements qui sont à l'intérieur de nous. Alors, une fois je priais, je réfléchissais, quand je suis venu à la... Enfin, quand je crois que chaque nation qui a été créée par Dieu, enfin chaque nation a été créée par Dieu, et chacune a un appel de Dieu en tant que nation, a une vocation. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, Seigneur, quelle est l'onction de la France ? Tu en as donné une à chaque nation. C'est quoi l'onction et l'appel de la France ? Et la réponse, elle s'est faite direct. C'est la faculté de transmettre la connaissance. Je répète, c'est la faculté de transmettre la connaissance. Et la connaissance, ça n'a pas un aspect péjoratif, parce que je crois que la vraie connaissance, c'est de comprendre la vérité, c'est-à-dire Dieu, qui il est, dans toute la sphère de toute la vie de ce qui est. Et lorsqu'on est en contact avec ça, ben, l'onction de la France, c'est de transmettre la connaissance. Alors la question, c'est pas de savoir si la France va enseigner les autres nations, parce qu'elle le fait. C'est un fait historique, si vous regardez, la France enseigne les autres nations. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle enseigne ? Qu'est-ce qui sort de notre pays ? Est-ce qu'il sort une bénédiction ou une malédiction ? Savez-vous que la première université au monde, c'était la Sorbonne qui a été créée ? C'était une faculté théologique, c'était des chrétiens, des théologiens. Ils étudiaient à travers la parole. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Sorbonne ? L'humanisme et beaucoup de choses. Savez-vous que des gens comme Enver Hoxha, le dictateur de l'Albanie, a été formé à la Sorbonne ? C'était le pays le plus athée au monde, le premier pays déclaré athée au monde, fermé pendant 40 ans. Je suis allé dans ce pays, 2 ans après l'ouverture, on aurait dit, enfin je ne connaissais pas à l'époque, mais... C'était de la folie. Hein. J'imagine que ça devait être comme ça au début du siècle en France. Je veux dire, c'était hallucinant comme pays. Hallucinant. Pol Pot, le Khmer Rouge, formé à la Sorbonne. Et là, il y a quelque chose à racheter. Moi, je crois qu'il y a dans cette... C'est pour ça que l'ennemi a placé ça avec notre aide. Quand je dis notre aide, nous avons péché, nous avons fait quelque chose. Mais il a placé ça sur la France parce qu'il sait que la France a ce don de Dieu de transmettre la connaissance. Je vous ai montré sur le diagramme, un des transparents, qu'on était dans le postmodernisme. Je ne sais pas ce que c'est le postmodernisme, mais c'est un courant de pensée qui a atteint le monde entier. C'est fait. Vous savez qui a amené le postmodernisme ? 5 personnes. 5 Français. 5 Français, les universitaires, les profs d'université ont commencé à enseigner ça dans les universités. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Et là, je crois qu'il y a une piste pour la prière de dire « Seigneur, rachète le don de la France. Que la France soit une bénédiction pour les nations. Que la France enseigne la connaissance de l'Éternel. » J'ai entendu aussi une fois au travers de Tom Bloomer, ça m'a beaucoup touché ce qu'il a dit, parce que j'avais jamais pensé ça et jamais entendu ça. Mais il a étudié le livre de Madame Guyon, qui a été une femme persécutée pour sa foi, sous je ne sais plus quel roi, Louis XIV, je crois. Bref, elle a été emprisonnée. Elle a eu une révélation du Père absolument incroyable, d'une telle force. Elle a écrit un livre qui est maintenant publié, je crois, en Angleterre et plus en français. Lui, il a eu ce livre entre les mains, il a dit « Jamais quelqu'un m'a enseigné le Père comme cette femme. Jamais. » Il a dit « Vous, les Français, vous avez une onction pour enseigner qui est Dieu comme nulle autre nation. » Mais seulement, il a dit « Où ils sont aujourd'hui, ces Français ? Où sont-ils ? Je ne les vois pas. » L'onction, vous l'avez. Mais où sont ceux qui vont enseigner le monde de la révélation du Père dans son caractère, de savoir comment il est, d'exprimer la plénitude du caractère du Père. Donc il y a quelque chose qui est là, qui est très très fort, et qu'on doit racheter. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir de son influence, de cette déesse ? Premièrement, c'est déjà de le reconnaître qu'on est influencé. Si au fond de vous-même, vous raisonnez déjà en vous disant « Ouais, peut-être pas, finalement, je sais pas si je suis influencé, tout ce qu'il dit c'est bien, c'est intéressant, mais moi, finalement, je suis au-dessus de ça. » Foutu. Foutu. Déjà, vous êtes dedans. Il faut reconnaître qu'on vit plus par notre tête que notre esprit. Vous savez, un bon test, qui peut être pour tous et autant pour moi, enfin pour tout le monde, parce que je ne sais pas comment je réagirai à ce test, mais j'ai réfléchi en me disant, mais comment est-ce que le Seigneur pourrait nous tester pour savoir si vraiment on obéit à notre esprit ou à notre intelligence ? Alors imaginons cette situation. Vous vous promenez sur les Champs-Élysées à Paris, ou on va dire à Louveteau, là ici, à Leclerc, vous connaissez bien du monde là, faites vos courses, et vous arrivez devant la caisse pour payer, et puis il y a un paralytique dans une chaise roulante. Et là, Dieu vous parle d'une force comme jamais il vous a parlé. Un ange passe et écrit dans le ciel, il y a des ailes de feu, enfin tout ce que vous voulez, la caissière se retourne, elle vous prophétise, enfin, Dieu vous parle. Vous pouvez pas dire que Dieu ne vous a pas parlé, il vous parle, et il vous dit, prie pour ce malade, guéris-le. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que votre esprit va dire « Oui, je le fais » ou est-ce que vous commencez à dire « Et s'il n'est pas guéri ? » Qu'est-ce qu'il va me dire ? Je ne le connais pas cet homme. Et la caissière, qu'est-ce qu'elle va me dire si jamais il n'est pas guéri ? Et puis en plus, si je lui prêche un évangile, je prie pour lui qu'il n'est pas guéri, ça va montrer que l'évangile ne marche pas. Donc ça va être un contre-témoignage. Non, il vaut mieux que je ne prie pas. Franchement, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je ne sais pas ce que je ferai. Peut-être que je serai embarrassé, certainement, j'aurai peur. Mais ça, c'est un bon test de se dire, on va être dans des situations de la vie où le Seigneur va vous parler, va vous dire de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment est-ce que vous allez répondre ? Okay ? Vous savez, moi, quand je travaillais, j'étais commercial dans les bateaux. Ça faisait 2 ans que je travaillais. La situation, enfin, sans rentrer dans les détails, il y a eu un appel carré, béton, clair et net sur ma vie, où le Seigneur m'a dit en très peu de mots, quitte tout ce que tu as et suis-moi. C'est pas grand-chose. Hein. Pour justifier ça devant ma famille, ça n'a pas été simple. Ceux qui ne sont pas convertis, vous voyez. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Je vais évangéliser comme Billy Graham. Je disais, ouais, je vais faire comme Billy Graham. Ah oui. Ah. Ils avaient peur. Ils avaient raison d'avoir peur. Mais je ne savais pas quoi dire. Moi, il ne m'a rien dit d'autre que, comme Abraham, quitte tout, suis-moi. Et il a fallu que je fasse le pas. Et je l'ai fait, mais je ne regrette pas. Je pensais avoir perdu ça en quittant ma région, en quittant mon travail, en quittant ma sécurité, tout. J'ai perdu ça et j'ai gagné ça derrière. Mais ça, je ne le savais pas. Mais il a fallu que je fasse le saut. Il a fallu que je fasse le pas. C'est peut-être le plus grand pas de foi de ma vie que j'ai jamais fait. De tout quitter, de dire... je dis, Seigneur, là, j'espère que tu t'es pas trompé, parce que sinon, la chute, elle va faire mal. Alors, la première chose, c'est de reconnaître qu'on agit plus par notre intellect, par notre raison, que par notre esprit. Ensuite, le deuxième pas, c'est de soumettre notre intelligence à Christ. C'est de lui dire, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie ? Ah ben, je te soumets mon intellect. Je te le donne. Je veux qu'il soit soumis à ton esprit. C'est lui qui doit me dire ce que je pense, si c'est vrai ou si c'est pas. Et il faut ensuite apprendre à utiliser notre raison et notre intellect avec Dieu, et non pas contre lui, mais avec lui. Parce que c'est un don qu'il nous a donné. Il faut apprendre à utiliser cela, que ça soit racheté, que ça soit purifié, et que lui nous utilise avec cela. Il ne faut pas le mettre à la poubelle, parce que ce sont des cadeaux de Dieu très importants. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on laisse notre raison être utilisée par Dieu? Eh bien, lorsque vous recevez une révélation et que, dans votre esprit, et que votre révélation monte dans votre intelligence, utilisez-la. Mettez en pratique votre révélation. Et là, vous allez utiliser votre intelligence et votre raison pour démontrer, pour mettre en pratique les révélations de Dieu. Et il y en a plein, et jusqu'à la fin des temps, il y aura des choses qu'on ne comprendra toujours pas. Hein, parce qu'on n'est que humain par rapport à l'Éternel. Quand j'ai enseigné ceci, ça c'était étonnant, il y avait une Allemande, une fois, qui en rentrant chez elle, est allée vérifier dans un dictionnaire allemand pour voir s'il y avait ce mélange aussi esprit-raison. Et je ne sais pas ce qu'ils ont vécu eux là-bas, mais elle me dit ceci, elle me dit, j'ai encore regardé dans un dictionnaire pour vérifier si esprit, qui veut dire Gates en allemand, veut dire la même chose que raison, intelligence. Eh bien oui, c'est vrai, c'est la même chose. Et il y a même à l'université une faculté qui s'appelle Geisteswissenschaften, qui veut dire les sciences de l'esprit. Et cela n'a rien à voir avec le spirituel, c'est une faculté d'histoire, de langue et de psychologie. Je dis, tiens, c'est intéressant, ça a traversé nos frontières, et c'est aussi là-bas, en Allemagne. Alors qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu là. Je pense pas, hein. Je sais pas, mais je pense pas. Alors voilà, j'aimerais finir en vous donnant un verset qui résume, qui clôture un peu tout ce que j'ai dit, qui est un verset magnifique. Dans Colossiens 2, verset 3, pour ceux qui veulent avoir de l'intelligence, pour ceux qui veulent avoir de la connaissance, eh bien, tout est là. Et il y a le mode d'emploi qui est là. Il est dit ceci, Colossiens 2, verset 3, « Je veux qu'ainsi leur cœur soit encouragé et qu'étroitement unis dans l'amour, ils accèdent en toute sa richesse à la plénitude de l'intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu, Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. »